Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo les spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là pour les 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M. Bien, aujourd'hui, si vous êtes un joueur de golf, de tennis, si vous êtes menuisier, bref, si dans le cadre de votre travail ou de votre loisir, vous êtes amené à faire un geste répétitif, vous êtes peut-être exposé au risque de souffrir d'une tendinite. J'en parle avec Dr. Joëlle Malenfant, qui est chiropraticienne. En première partie d'émission, un thème qui est assez nouveau, ça a sorti en 2012 dans le Petit Larousse, le terme orthorexie qui a fait son apparition et dans le dictionnaire, mais de plus en plus dans notre vocabulaire, dans les médias, on l'a entendu circuler ce mot-là. Peut-être parce que l'alimentation, les saines habitudes de vie, la santé, c'est de plus en plus au cœur de nos préoccupations. Les médias en parlent énormément. On s'en soucie en tant que société, c'est une bonne chose. Mais et si parfois ça tombait dans l'obsession, j'en parle avec Marilyn Dion, elle qui est coordonnatrice clinique, oui, à ANEB Québec. Dans les dernières années, l'importance de l'alimentation saine dans la prévention de diverses maladies et dans le maintien d'une santé qui est optimale, qui est globale, a pris beaucoup de place. La majorité d'entre nous, on arrive à assez bien gérer ça, à faire des bons choix pour notre santé, également pour notre plaisir. Pour les orthorexiques, ça peut devenir obsessif, plus problématique. J'en parle avec Marilyn Dion, elle, coordonnatrice clinique à l'ANEB Québec. Merci d'être là, Marilyn.
Merci, bonjour.
Bonjour. Donc, l'orthorexie qui, moi, je décrirais, et bien sûr, vous me reprenez si je me trompe, comme de la rectitude alimentaire. Est-ce que c'est un bon terme?
Oui, tout à fait. En fait, l'orthorexie, c'est en quelque sorte une obsession d'adopter des comportements alimentaires sains. Donc, toute la vie, tout le mode de vie, c'est en lien avec la bonne alimentation et l'adoption de comportements alimentaires qui vont être sains.
Mais il faut quand même faire une nuance parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à la nourriture saine, c'est-à-dire qu'ils vont avoir envie de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des bons grains, des bonnes huiles, mais que si, par exemple, on leur sert quelque chose qui n'est pas bio, quoi que ce soit, ils vont quand même en manger avec plaisir. Il y a une nuance à faire.
Oui, tout à fait. En fait, surtout la société actuelle, il y a une grande vague qui s'installe pour que les gens adoptent des comportements qui sont sains, d'aller au gym, de faire du sport et également au niveau de l'alimentation. Donc, on vise à adopter un comportement alimentaire sain et ce n'est pas ça la problématique. C'est quand toute la vie tourne autour de ça et que ça devient obsessif, qui là, ça commence à avoir un problème à ce moment-là.
Mm-hmm. L'orthorexie, c'est important de le dire, c'est pas considéré comme un trouble alimentaire.
Pas encore. Ça ne fait pas partie du manuel de diagnostic des maladies mentales, le DSM-5. C'est une tendance qu'on a vu naître à la fin des années 90. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé socialement à adopter un discours autour duquel c'est important d'adopter ce genre d'attitude alimentaire-là. L'industrie des régimes est rentrée également dans la vie quotidienne de bien des gens. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à voir naître cette obsession-là, cette restriction-là alimentaire qui peut causer bien des dommages.
Oui. Donc, pas un trouble alimentaire, mais bel et bien une obsession, on mm-hmm. peut le dire, de Tout cette façon-là. Selon vous qui êtes en clinique, donc qui rencontrez des gens tous les jours qui mm-hmm. souffrent de différents troubles alimentaires, est-ce que l'on devrait considérer bientôt l'orthorexie comme un trouble alimentaire?
Certainement. En fait, les tendances, les études qui commencent à avoir lieu en lien avec cette problématique-là démontrent qu'il y a un réel problème, qu'il y a une inquiétude à avoir et éventuellement, ça fera partie des troubles alimentaires qu'on pourra diagnostiquer là, quand on va consulter un médecin ou un psychiatre.
Ouais. Maintenant, est-ce que vous le savez, Marilène, si les spécialistes de la santé, là, je pense par exemple à des médecins de famille, c'est-à-dire mm-hmm. les spécialistes qu'on rencontre souvent en premier lieu avant d'être référés, sont au courant de cette problématique-là qui est de plus en plus courante dans la société?
Certainement que certains professionnels sont au courant et sont à l'affût de ce genre de comportement alimentaire-là qui serait problématique et d'autres probablement moins. Parce que ce trouble alimentaire-là s'insère très bien dans le discours comme quoi c'est important d'avoir des bonnes habitudes, c'est important de ne pas avoir de surplus de poids. Hein?
Ouais.
On va chez le médecin et parfois, c'est le genre de commentaires qu'on va avoir, qu'on va recevoir. Il faut adopter des bonnes habitudes, il faut perdre du poids.
C'est bien vu, ça, finalement.
Mm-hmm, ouais, tout ouais. à fait. Et puis, la personne orthorexique va pouvoir adopter ce discours-là pour pouvoir justifier ces comportements-là. Et souvent, le trouble peut passer inaperçu.
Oui, oui, oui. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce qu'on a des chiffres? J'imagine la prévalence est difficile à établir, là, qu'on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais est-ce qu'on a une idée?
Effectivement, il y a très peu d'études sur le sujet. Je sais que la communauté scientifique se mobilise de plus en plus. Je lisais une étude, justement, qui faisait ressortir une prévalence qui était quand même assez élevée. Donc, il faudrait okay. voir peut-être tout le processus de sélection et la méthodologie de l'étude. On parlait autour de 6 % de la population, alors que les autres troubles de comportement alimentaire, la prévalence, elle est moindre. Donc, c'est assez préoccupant.
Est-ce que l'on sait si ça touche davantage les garçons, les filles?
Comme les autres troubles alimentaires, on rencontre que c'est davantage les femmes qui seraient à risque de développer ce genre de trouble-là. Par contre, on le retrouve évidemment chez l'homme. Mm-hmm. Encore là, les troubles alimentaires chez les hommes, c'est encore tabou.
Ouais.
On n'entend pas beaucoup parler. Les dévoilements sont peut-être moins importants que chez les femmes, mais ça, on le retrouve également là, chez les hommes, certainement.
Quel est le processus pour diagnostiquer l'orthorexie chez quelqu'un? Quels sont les critères qu'on va observer?
Mm-hmm. En fait, puisque ce n'est pas un diagnostic qu'on peut poser ouais. clairement, mm-hmm. Actuellement, il fait partie des troubles alimentaires non spécifiés. Donc, il fait partie d'une généralité de troubles alimentaires. Par contre, il y a le test de Bratman, un des chercheurs qui a été à l'affût de cette difficulté-là à la fin des années 90. Donc, c'était un des premiers préoccupés par ce genre de comportement-là. Mm-hmm. Il y a un test qu'on répond par oui ou non pour évaluer justement les habitudes alimentaires. Ce qu'on va aller voir, c'est tout d'abord la relation face à la nourriture.
Mm-hmm.
Est-ce qu'il y a un plaisir autour de l'alimentation ou on est davantage dans la restriction, dans les règles alimentaires qui vont être très strictes, des aliments interdits? Et puis aussi au niveau des habitudes sociales, est-ce qu'on ouais. a tendance à s'isoler? Est-ce qu'on refuse, par exemple, d'aller dans les restaurants ou dans des soupers entre amis parce que tout ce contexte-là, on va avoir quelque chose dans son assiette dont on ne connaît pas nécessairement la provenance, qui l'a apprêté, comment l'a apprêté, le nombre de calories associées. Donc, c'est toutes des préoccupations qui vont faire en sorte que la personne va s'isoler.
Ouais. parce qu'elle n'a pas le contrôle de son assiette et des aliments qu'elle ingère. D'ailleurs, d'après ce que je lisais, c'est pas mal l'une des facettes qui est touchée en premier lieu, tout le contexte social. Je lisais sur le site d'Extenso un exemple très, très probant d'un jeune orthorexique qui refusait de consommer des fruits et des légumes s'ils n'avaient pas été cueillis dans les 15 minutes parce qu'il considérait qu'après 15 minutes, le fruit ou le légume donc, est moins nutritif. Il a déjà commencé à se détériorer. Donc déjà, c'est un exemple que j'avais envie de mentionner parce que je le trouvais très révélateur. Il y a d'autres exemples comme ça, Marie-Hélène?
En fait, vous apportez un exemple fabuleux. Il y a la préoccupation de tout le processus alimentaire. Ça va de la façon dont l'aliment va avoir été cueilli, élevé, modifié, et également à la façon de l'apprêter, à l'outil qui va avoir servi à le cuire, à le couper, temps de cuisson, jusqu'à quel temps de cuisson on va aller obtenir tous les nutriments qu'on peut en retirer. Donc, il y a toute une planification autour du processus alimentaire qui va prendre plusieurs heures dans la journée. Donc
j'imagine, oui, j'imagine qu'un indice, c'est si on pense toujours à notre prise de repas, à qu'est-ce qu'on va manger, à qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, à ce qu'on va acheter au marché, ça nous tourne souvent dans la tête, ça peut être déjà un petit signal d'alarme, là, la façon dont on pense à l'alimentation et combien de temps ça prend dans notre journée.
Tout à fait. Et puis, à passer autant de temps à planifier tout ça, bien, il ne reste plus beaucoup de temps pour les autres activités de la vie, vous en conviendrez.
Oui. J'imagine que ça n'arrive pas du jour au lendemain, l'orthorexie, que ça doit s'installer dans un processus. Est-ce que ça commence ou est-ce que c'est une... La cause, c'est les médias, justement, qui nous assaillent de plein d'informations.
Mais avec tous les programmes liés à l'adoption de saines alimentations, de comportements alimentaires qui sont sains, c'est certain que ça accentue le discours par rapport à ça. En fait, on remarquerait apparemment une incidence entre la préoccupation de la santé publique face à l'adoption de comportements sains versus l'importance que le trouble peut prendre dans la vie de la population. Donc, ce serait lié à la préoccupation du système public, là, tout à fait.
Et l'un des dangers, j'imagine, avec l'orthorexie, c'est que ça peut s'apparenter à un trouble alimentaire qui est l'anorexie, qu'on connaît beaucoup. Qu'on connaît bien, parce que si on élimine certains aliments de l'assiette, parce qu'on ne les considère pas assez nutritifs ou pas assez santé pour nous, ben j'imagine qu'à un moment donné, il ne reste plus grand-chose, donc on diminue nos portions.
Tout à fait. Bien, en fait, si on peut faire le parallèle avec l'anorexie mentale, parce qu'il y en a un. Oui, la personne qui vit de l'anorexie mentale, sa préoccupation, son obsession va être... davantage en lien avec la quantité des aliments qui va être ingérés versus la personne qui vit de l'orthorexie va être obsédée par rapport à la qualité des aliments qui vont être ingérés. Mais l'aspect de contrôle qui va s'installer pour pouvoir respecter ces règles-là que la personne va savoir elle-même imposer est sensiblement le même.
Oui. On l'a dit tout à l'heure, puisque ce n'est pas considéré comme un trouble alimentaire, on ne pose pas de diagnostic. Par contre, est-ce qu'il y a des traitements?
Bien, en fait, on procède environ de la même façon qu'avec tous les autres troubles alimentaires. Parce que quand on aborde la question des troubles alimentaires, la difficulté, le problème ne se retrouve pas dans l'assiette. Donc, il se retrouve généralement en dessous de l'assiette, c'est souvent ça qu'on dit. Donc, c'est un problème qui est davantage au niveau de la gestion des émotions, des difficultés relationnelles. Donc, comment on procède, c'est qu'on va voir à la source à quoi ça va servir à la personne d'installer ce genre de comportement-là, parce qu'il y en a du positif, puis ça sert à quelque chose.
Oui, d'avoir une préoccupation à savoir ce que l'on ingère quotidiennement. J'imagine que le danger, c'est quand on veut contrôler aussi ce qui se passe dans la famille, c'est-à-dire qu'est-ce que mangent nos enfants, le conjoint ou bon même nos parents. Est-ce que ça on peut l'observer ça chez des orthorexiques qui ont envie de contrôler tout ce qui se passe?
Tout à fait. Ça rentre dans la même lignée que tous les troubles alimentaires. Ce n'est pas rare de voir qu'une personne qui en souffre va gérer tout ce qui se passe dans la cuisine et va contrôler le reste de l'alimentation de la famille.
Oui, et là, ça peut devenir un risque là, davantage, surtout, je pense, du point de vue des enfants, là. De ce point de vue-là, Marie-Hélène, on fait comment pour bien filtrer les informations qu'on reçoit? Est-ce que vous avez des petits trucs, des petits conseils pour nos auditeurs, des recommandations avec tout ce que l'on entend par rapport à la nutrition?
Qu'est-ce que vous voulez dire exactement de filtrer?
Parce que ce que l'on dit depuis tout à l'heure, c'est que l'orthorexie, c'est un phénomène qui s'est installé parce qu'on a accès énormément à de l'information du point de vue des médias et qui peut peut-être influencer notre rapport à la nourriture. Maintenant, pour le grand public qui nous écoute, comment on arrive à filtrer tout ce qu'on entend et à garder peut-être pas nécessairement un détachement, mais la tête haute de ça et se dire « OK, ben, je peux manger en étant relax.
» Ben, en fait, c'est d'adopter une attitude critique par rapport à l'alimentation, parce que ce qu'on voit des personnes qui vont développer le trouble d'orthorexie, c'est d'apporter les recommandations qui vont être entendues dans le discours « adopter un comportement alimentaire sain », mais ça va être de le pousser à l'extrême. Donc, ça va être, on va voir des bons et des mauvais aliments qui vont s'installer. On va en retirer complètement. Sauf qu'adopter des comportements alimentaires sains, c'est de s'accorder droit à tous les aliments, c'est de ne pas se restreindre. Je pense que c'est de voir la zone de gris. Parce que les personnes qui vont être orthorexiques vont être très rigides. C'est blanc ou c'est noir. Il n'y a pas de juste milieu à ce moment-là.
Et de faire peut-être attention aux appellations aliments magiques ou aliments miraculeux qu'on entend beaucoup moment dans le discours. Et puis de penser que ça guérira tous nos maux. Maintenant, on consulte si on s'inquiète pour soi ou pour un proche. On se dirige vers qui?
Mais en fait, nous, chez ANEB Québec, comment on voit ça? C'est qu'à partir du moment où il y a une préoccupation en lien avec la nourriture, en lien avec les comportements alimentaires, c'est d'aller à la source, d'aller s'informer, d'aller voir qu'est-ce qu'il en est, de quoi il en retourne. Et puis, vous pouvez nous contacter, nous, chez ANEB. On a une ligne de soutien, une ligne d'écoute. Une ligne de référence. Donc, on peut regarder avec vous. On ne pose pas de diagnostic, mais on regarde quelle est la souffrance et puis comment on pourrait travailler dessus.
Oui, et diriger les gens.
Tout à fait.
Autant pour les adolescents que pour les adultes. www.anebquebec.com. Marie-Hélène Dion, coordonnatrice clinique à l'ANEB Québec. Merci beaucoup. Ça a été très éclairant.
C'est un plaisir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @canal_m.
Si, comme moi, vous passez plusieurs heures par jour devant un ordinateur à travailler avec une souris, vous êtes peut-être susceptible de développer au niveau du poignet, des poignets ou encore des coudes, des inconforts, des douleurs. C'est possible de les prévenir, ces douleurs-là qu'on appelle tendinite. J'en parle avec le docteur Joël Malenfant, elle qui est chiropraticienne. Bonjour Joël.
Bonjour.
La tendinite, on en entend souvent parler. Par contre, on ne sait pas vraiment de quoi il est question. Comment on pourrait expliquer ce qu'est la tendinite?
En fait, ça, on y va juste par définition. Là, une tendinite, c'est l'inflammation d'un tendon. Un tendon, c'est quoi? C'est la fin du muscle. Donc, tu sais, un muscle, il y a la portion toute musculaire, puis au bout, ce qui vient s'attacher sur l'os, là, ça, c'est le tendon. C'est ça qui devient inflammé puis qui va créer la douleur.
On peut avoir des tendinites au poignet, on peut en avoir au coude. Est-ce qu'on peut en avoir ailleurs?
Oui, on peut en avoir aux épaules, on peut en avoir aux chevilles, aux genoux. Dans le fond, comme je disais, tu sais, chaque muscle a un tendon, donc à chaque endroit où est-ce qu'un tendon vient s'attacher sur un os, là, ça peut devenir inflammé pour différentes raisons.
Et ce qui cause les tendinites, à mon sens, à moi, vous me corrigez si je me trompe, c'est des gestes répétitifs.
Oui, c'est des gestes répétitifs la plupart du temps, puis des postures prolongées aussi.
Oh, OK. Donc, ça touche énormément les sportifs. On peut penser à des joueurs de tennis, à des joueurs de golf, peut-être des nageurs aussi. Qui ça touche d'autre dans la population?
Dans la population générale, tu sais, ça va souvent être des travailleurs. Donc, quand on parle de mouvements répétés, on parle à une caissière au métro qui passe tout le temps les légumes là, pour c'est sur le panier. Sinon, tout mouvement répété, donc une souris à l'ordinateur, des postures prolongées, on peut penser aux hygiénistes dentaires qui ont souvent bras dans les airs fixes. Donc, tu sais, c'est vraiment tout travail qui va amener des gestes répétitifs, des postures prolongées. Ces gens-là vont être beaucoup à risque là, de développer des tendinites.
Des gens qui travaillent dans la construction aussi, j'imagine, avec les différents outils. Donc, tout le monde...
Oui, la vibration, des fois, là, tu sais, ceux qui font beaucoup de je pense, quand on pense aux gars de la construction là, qui font du marteau-piqueur ou du marteau, mais ça aussi, là, ça va amener une vibration qui va venir irriter le tendon.
Donc, ça peut toucher pas mal de monde, la tendinite. Oui. Quels sont les symptômes? Pour moi-même, déjà, en avoir souffert de tendinite, je le décrirais comme une brûlure. Est-ce que ça vous semble probable, docteur Joël Malenfant?
Oui. C'est ce que ça va faire. Le premier symptôme, ça va être ça. Ça va être une brûlure qui va être localisée là, à l'endroit où est-ce que le tendon est inflammé. Puis tranquillement, quand la douleur va devenir de plus en plus intense, quand ça fait de plus en plus longtemps que c'est là, la douleur va se répandre. Fait qu'au lieu d'être locale, elle va devenir de plus en plus diffuse dans le membre affecté. Ça peut créer, quand c'est au niveau du poignet, du coude, ça peut créer des engourdissements aussi dans la main.
Et la difficulté de faire au quotidien les activités que l'on fait pour le boulot ou les loisirs.
Oui, tu sais, c'est là qu'on va entendre là, que j'ai de la misère à lever ma tasse de café, j'ai de la misère à prendre la pinte de lait dans le frigidaire. Donc, tu sais, ça va affecter la force musculaire, ça va affecter la préhension quand c'est au niveau du bras. Là. Mm-hmm. Ça va affecter plusieurs mouvements de la vie quotidienne.
Là. Est-ce que c'est possible de prévenir la tendinite sans cesser nos activités?
Oui, ce qui est important, là, c'est quand c'est quelque chose qui arrive plus au travail, bien, de varier les positions de travail, de faire vérifier son poste de travail aussi, parce que souvent, c'est le poste de travail qui est mal ajusté, qui fait en sorte que l'ergonomie n'est pas à son meilleur, puis qui va venir irriter le tendon, de prendre des pauses, de ne pas travailler des longues heures sans arrêt, de s'étirer régulièrement, de faire des petits programmes d'exercice aussi pour aller renforcer les muscles de la région qui est affectée. Plus les muscles vont être forts, plus les muscles vont être soutenants, bien moins ils vont se fatiguer. Puis c'est ça aussi, c'est la fatigue à un moment donné qui fait que la douleur va apparaître parce que l'articulation est plus capable de gérer ce mouvement-là. Là.
Et par ce que l'on ingère, je pense ici à bien s'hydrater. Est-ce que c'est réellement lié?
Bien s'hydrater, tu sais, ça fait partie des recommandations santé. Donc, tu sais, plus on va être actif, meilleure va être notre alimentation, moins on a de chances de développer des douleurs. Fait que, tu sais, de bien s'hydrater, ça rentre dans tout ce qui est avoir une bonne alimentation, manger. Tu sais, des fois, on va dire aussi que les oméga-3, il y a un petit rôle anti-inflammatoire qui peut venir aider aussi là, à aller supporter nos tissus. Là.
Et maintenant, quand le mal est fait, on traite comment la tendinite?
Mais là, c'est important d'aller chercher des traitements qui vont aller travailler musculairement les muscles, qui vont aller travailler l'articulation pour lui redonner plus de mouvement. Parce que quand on a mal, bien, le muscle devient spasmé, puis il va aller limiter tout le mouvement articulaire. Donc ça va être important à les traiter. En chiropratique, c'est quelque chose que je traite très régulièrement. Là.
Les tendinites, oui, ça fait partie, oui. Ça touche beaucoup votre clientèle.
Oui, c'est 80 % de,
et là là.
De ce que je vais traiter.
Est-ce que c'est long à traiter une tendinite?
Ça dépend tout le temps. Ça dépend ça fait combien de temps. Ça dépend aussi de toutes les mesures qui vont être prises, qui vont être prises en dehors. Donc, le traitement ouais. va aider beaucoup, mais après ça, ça va être de faire les exercices à la maison, de mettre de la glace, de changer le poste de travail si c'est ça qui vient faire en sorte qu'il y a une récurrence au niveau du problème.
Mm-hmm.
Mais habituellement, ça se traite quand tous les facteurs sont mis là, en place pour aider. Habituellement, ça se traite quand même assez rapidement. Là.
Et je reviens là-dessus pour être bien certaine, on n'est pas obligé d'arrêter nos activités. C'est-à-dire non. que si on a développé une tendinite en jouant au golf, on n'est pas obligé d'arrêter de jouer au golf.
Non, non, c'est ça peut être de limiter un peu le tu sais d'y aller dans la zone de confort aussi là,
mm-hmm.
mais d'arrêter, tu sais souvent c'est ça le problème aussi, c'est que les gens ont mal donc ils arrêtent.
Ouais.
Donc en arrêtant, ça augmente le problème parce que là le muscle devient encore tu se renforcit pas, tout devient encore plus ankylosé, puis là on embarque dans un patron de douleur qui
ouais.
est pire là.
Ouais.
C'est important vraiment une chose qui est super importante, c'est de rester actif.
Et si ce n'est pas traité, quels sont les facteurs de risque?
Bien, comme je disais tantôt, c'est là qu'on va voir apparaître des pertes de force, des engourdissements qui peuvent devenir de plus en plus fréquents, une perte de mobilité, une tendinite à l'épaule, ça peut faire en sorte qu'à un moment donné, bien, tout les mouvements du bras, la personne n'est plus capable de lever son bras, plus capable d'aller chercher des choses au-dessus de sa tête.
Mm-hmm.
C'est des douleurs qui vont commencer à réveiller la nuit. Donc ça va avoir un impact sur encore plus
sur la vie quotidienne.
De la vie de la personne, oui.
Oui, oui, ça devient limitant. Est-ce qu'on a à prendre des médicaments? Est-ce que vous recommandez la prise de médicaments?
Moi, je recommande surtout la mise de glace. Donc, c'est
ouais.
important vraiment de mettre de la glace pour diminuer l'inflammation. Les médicaments vont être là pour soulager. Donc, tu sais, quand il y a une bonne douleur, que la personne n'est pas fonctionnelle, les médicaments vont avoir un rôle de diminuer la douleur, comme mm-hmm. on met un pansement là, pour arrêter l'hémorragie, mais le problème ne se réglera pas juste par la prise de médicaments.
C'est,
ça va diminuer
fait.
La douleur,
oui.
mais c'est important de le traiter. Là.
Docteur Joëlle Malenfant, vous êtes chiropraticienne. On peut vous joindre au www.joellemalenfant.com. Merci beaucoup de nous avoir parlé de la prévention de la tendinite.
Ça me fait plaisir.
Au revoir.
Bonne journée.
Eh bien, c'est la fin. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'était Martin Dupuis à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre au canalm.org, également nous suivre sur nos pages Facebook. Et C'est bon pour la santé est également sur Twitter. C'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et portez-vous bien, nous, on se retrouve demain. Bye-bye.